Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre forum sur le studio Kalangu. Vous nous suivez chaque jour grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct nos programmes dans toutes les capitales régionales et dans une vingtaine de départements du pays. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangu. Et notre site internet www.studiokalangu.org. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour ce rendez-vous journalier de forum sur le studio Kalangu. Vous le savez, c'est votre débat radiophonique abordant divers sujets riches et variés avec pour principal objectif de vous éclairer sur plusieurs questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement avec des personnes ressources et des spécialistes du domaine. Le don de sang, pourquoi, obstacles et perspectives, c'est la thématique que nous abordons ce soir. Vous le savez, le don de sang est un geste simple à travers lequel des milliers de vies sont sauvées chaque jour à travers le monde. Comme nous allons en effet le voir au cours de ce forum, rien ne peut jusque-là remplacer le sang dans le fonctionnement du corps humain, d'où l'institution d'une journée mondiale pour le don de sang depuis 2004 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il s'agit de la date du 14 juin de chaque année et le thème retenu pour l'édition 2018 était « Le don de sang en tant qu'acte de solidarité ». Quelle est l'importance de cette journée mondiale du don de sang? Pourquoi donner de son sang? Qui peut donner son sang? Comment et combien de fois dans l'année? Comment bénéficier de ce geste noble? Donner son sang a-t-il des impacts sur la santé du donneur? Quelle est la quantité de sang prélevé par donneur? Quelles sont les dispositions à prendre avant de donner du sang? Quelles sont les recommandations médicales à suivre après un don du sang? Quels sont les différents types de groupes sanguins qui existent? Quels sont les principes de compatibilité en matière de transfusion sanguine? Peut-on contracter une maladie en donnant son sang? Y a-t-il des avantages à donner du sang? Quelle est la situation de la banque de sang? Stock suffisant ou pas? Comment la banque se ravitaille en sang? Qui sont, par ordre d'importance, les demandeurs de sang au niveau de la banque de sang? Quelles sont les difficultés du centre pour collecter le sang et aussi pour le fournir aux demandeurs? Quels sont les projets à court et moyen terme pour développer les capacités du CNTS à enrayer les difficultés? C'est à toutes ces questions et à plein d'autres que nous tenterons de répondre au cours de ce forum qui reçoit comme invité le médecin général Dr Seydou Maïguizo, directeur général du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Général, bonsoir.
Bonsoir.
Le deuxième invité est Adamou Moussa. Il est secrétaire à l'information de l'Association des donneurs bénévoles du sang du Niger, ADBSN. Bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, Michel Dégé. Mon général, pour commencer, pouvez-vous nous faire une brève présentation du Centre national de transfusion sanguine CNTS que vous dirigez?
Merci bien. Je voudrais, avant de poursuivre mes propos, vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous avez bien voulu adresser à mon institution pour essayer d'éclairer les auditeurs sur ce que c'est la transfusion sanguine et le don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine a vu le jour en tant que EPA, c'est-à-dire un établissement public à caractère administratif, en septembre 1999. Donc, c'est le statut qui le gère. Il est composé pour l'instant de 5 centres régionaux de transfusion sanguine, c'est-à-dire le centre régional de transfusion sanguine de Niamey. Niamey va couvrir la région de Niamey et Tillaberi. Vous avez le centre régional de transfusion sanguine de Maradi. Vous avez également celui de Zender. Zender va couvrir la région de Diffa. Enfin, vous avez donc le centre régional de transfusion sanguine d'Agadez et celui de Tawa. Donc, comme vous le voyez, il y a deux régions ou trois régions qui n'ont pas encore de centre régional de transfusion. Donc, c'est Diffa, Tillabéri et Dosso. Et la politique nationale de transfusion sanguine prévoit que ces régions, que chaque région soit dotée d'un centre régional de transfusion sanguine. Voilà en gros la présentation schématique du centre national de transfusion sanguine.
Quelles sont ses missions, ce centre national?
Une des missions, c'est d'abord de servir de centre de référence. Donc tout ce qui est transfusion sanguine, le centre national assure donc la référence nationale. Une autre mission, c'est de coordonner toutes les activités liées à la transfusion sanguine sur l'ensemble du pays. Donc que vous soyez à Tillabéri ou que vous soyez à Bilma, c'est le centre qui doit coordonner ces activités de transfusion. Une autre mission, c'est également de faire de la supervision. Donc partout où vous avez un centre de transfusion, en principe, on est amené à aller vérifier leur activité, voir comment ils travaillent, si les procédures sont respectées. Ensuite, une autre mission du Centre national de transfusion sanguine, c'est de donner, en tout cas, toutes les structures publiques comme privées, du sang de qualité pour que ces structures publiques ou privées puissent faire leur transfusion. Une autre mission, c'est de faire de la recherche. Malheureusement, c'est un volet qui compte beaucoup pour nous, mais qu'on n'arrive pas à mettre encore en œuvre. Donc, c'est faire de la recherche dans le domaine de la transfusion, voire dans le domaine de la santé. Une autre mission, c'est de faire des expertises dans le domaine de la transfusion sanguine, dans le domaine de la santé. Voilà en gros les grandes missions du Centre national de transfusion sanguine.
Avant d'aller en profondeur par rapport à ces différents aspects, Monsieur Adamou Moussa de l'Association des donneurs bénévoles du sang du Niger, vous, à quel moment avez-vous décidé de créer votre association et quelle en est la motivation?
La motivation, c'est par rapport vraiment au vécu, par rapport aux situations vécues ou à l'interne, donc au sein de nos familles, ou encore par rapport aux accidents vécus, tout ça là. Et on s'est entendu en groupe, donc on a décidé vraiment de créer cette association. Et l'association date de 1993. Elle est créée par arrêté numéro 057/MAT/D/DAPJ/SA du 13 février 1993.
Ça veut dire qu'il y a 25 ans.
23 ans ou quelque chose comme ça.
93 ans maintenant, 25 ans. Docteur Seydou Meguizo, je reviens à vous. Expliquez-nous à présent pourquoi on fait le don de sang.
Bon, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, à savoir que le sang, pour l'instant, il est irremplaçable. On ne le fabrique pas. Donc, il n'y a que le sang humain qui compte. Et donner son sang, c'est juste pour sauver les vies humaines. Vous voyez, il y a dans la santé, dans la médecine, on a énormément de spécialités qui utilisent le sang. Et sans ce sang, il n'y aura pas de travail pour ces gens-là. Il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura pas de transfusion, nulle part. Donc c'est pourquoi on dit, il faut que les gens prennent conscience de ça, venir faire leur don pour essayer de sauver des vies. C'est vraiment l'objectif, c'est sauver des vies humaines.
Quelles sont les personnes qui sont souvent dans ce besoin de ça, docteur?
Bon, les personnes qui nécessitent cette transfusion, c'est tout ce qui est les accidentés par exemple. Les accidentés de la route, donc ils font leur accident. Parfois, il faut du sang pour les opérer. Vous avez également les femmes et les enfants. Donc, notamment les femmes qui ont des difficultés d'accouchement ou bien qui ont des difficultés de gestation au cours de leur grossesse. Vous avez également les enfants drépanocytaires. Vous savez que la drépanocytose, c'est un trait vraiment spécifique aux Noirs. Et au Niger, si je ne me trompe pas, on a à peu près au moins 20% de la population qui sont drépanocytaires.
Une personne sur cinq, non?
Voilà, en gros, une personne sur cinq qui est drépanocytaire. Ensuite, vous avez les enfants paludiens graves. Donc, le palud aussi, vous savez que c'est une maladie qui sévit sous nos tropiques. Donc, ces personnes ont également besoin de sang. Vous avez également tous les cancéreux. ils ont besoin de sang dans leur vie, une ou deux fois ou même plusieurs fois. Il leur faut être transfusé. Vous avez également les insuffisants rénaux. Là aussi, c'est classique. Ils ont besoin de sang, en tout cas pour améliorer leur qualité de vie. Donc, toutes ces personnes-là ont vraiment besoin de sang.
Quelle est la situation par rapport à la couverture nationale? Est-ce que vous arrivez à satisfaire ces besoins? Nous les voyons énormes.
Oui, les besoins sont énormes. La demande est énorme. Malheureusement, on n'arrive pas à suivre la cadence. C'est-à-dire, si je prends les statistiques de l'année dernière, 2017, on a à peu près 50% de demandes satisfaites. Ça veut dire que 50 autres ne sont pas satisfaites. Il faut attendre 2 ou 3 jours avant de pouvoir fournir le sang. Donc 50%, c'est pas bon. Et on est conscient de ça. C'est pourquoi on n'arrête pas de faire, en tout cas, dès qu'on a une occasion, d'en parler. Parce que vous savez, la transfusion sanguine, malheureusement, c'est le parent pauvre de la santé. Ça, j'ai coutume de le dire. C'est un point central de la santé. Tout à l'heure, je vous ai dit, toutes les spécialités font recours à la transfusion sanguine. Et malheureusement, elle est peu connue ou mal connue du grand public. Donc, si je me résume, c'est vraiment 50% qu'on arrive à...
Le taux de couverture des besoins en sang, voilà, au niveau des structures sanitaires de l'ensemble du pays.
Voilà, c'est l'ensemble du pays. Je vous donne l'ensemble du pays. Voilà, c'est 50% à peu près.
Qui peut donner son sang, docteur? Oui, le secrétaire de l'information.
Il faut peut-être ajouter, au Niger, les dons sont des dons de famille. Oui. Dans plus de 80% des cas, c'est les familles qui viennent donner parce qu'un membre est malade, il a besoin du sang, donc on fait mobiliser la famille. Alors qu'il n'y a que moins de 16% qui sont des donneurs volontaires, un peu fidélisés. Donc c'est ça la grosse problématique du don de sang.
Alors qu'on ne doit pas arriver à ce stade normalement.
Un des principes fondamentaux de la transfusion sanguine, c'est l'anonymat. Donc anonymat, ça veut dire tout simplement le donneur vient donner son sang, il ne sait pas à qui il a donné. Le receveur qui reçoit le sang, il ne sait pas qui lui a donné le sang. Il n'y a que le sang de transfusion qui sert d'interface, qui sait à qui est destiné la poche. Et nous, on est tenu donc au secret médical. On ne peut pas divulguer à qui on a donné. Non. C'est interdit.
On verra.
Donc, c'est l'anonymat qui doit primer. Et comme il a dit, effectivement, au Niger, bon, dans la plupart des pays de la sous-région, malheureusement, c'est les dons familiaux. Et au Niger, donc, toujours depuis 2017, on est à 68% de dons de famille contre 32% de volontaires de collecte. Et l'OMS préconise, enfin, l'OMS encourage les centres de transfusion à aller vers l'objectif 100%. 100% de donneurs bénévoles à l'horizon 2020, comme ils disent.
Nous allons revenir sur cela dans les détails, puisque on voit bien qu'il y a même un principe de compatibilité qu'il faut respecter. Et docteur, pour le moment, parlons toujours de ce don du sang. Qui peut donner son sang, docteur, et selon quelle fréquence, c'est-à-dire combien de fois par an, par exemple?
Merci, c'est une question extrêmement importante. Tout sujet en bonne santé, c'est le premier critère. En bonne santé, peut donner son sang. Le deuxième critère important, c'est l'âge. Donc, c'est de 18 ans à 60 ans quand vous êtes un nouveau donneur, mais vous pouvez aller jusqu'à 65 ans quand vous êtes un ancien donneur. Et troisième critère important, c'est le poids. Donc, on demande à ce que le donneur ait un poids au moins ou supérieur à 50 kilos. Maintenant, pour les femmes, il y a d'autres critères qui entrent en jeu, vous le comprenez aisément. Donc, si la femme allait pour l'instant, donc, elle ne peut pas donner. Si ensuite, elle a des menstrues, donc, si elle est à règles, elle ne peut pas non plus donner. Et si elle est enceinte, elle ne peut pas donner. Donc, voilà les cas où on contre-indique le don de sang.
Combien de fois est-ce que quelqu'un peut donner son sang?
Voilà, pour un homme, c'est tous les 3 mois qu'il peut venir donner.
Soit 4 fois dans l'année.
Et la femme, c'est tous les 4 mois qu'elle peut donner. Soit 3 fois dans l'année.
Mais docteur, le don de sang, ça se fait comment? Quelles sont les étapes qu'il faut respecter pour arriver au stade de pouvoir donner son sang?
Bon, j'ai pas... Ce que je viens de dire, il faut être en bonne santé.
C'est-à-dire ce qu'il y a... comment suivre, quelle est la procédure pour donner son sang? Quand on arrive, par exemple, si quelqu'un, citoyen, veut aujourd'hui donner son sang, comment est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit venir vers le centre, aller à l'hôpital? Comment il doit s'orienter?
C'est bien. Donc, pour donner son sang, vous êtes volontaire. Ça aussi, c'est un des critères. On n'exige pas à un donneur de venir donner de gré ou de force. Non, c'est le volontariat. Ça, c'est le deuxième critère du don de sang. Donc, vous êtes volontaire, vous êtes majeur, vous êtes en bonne santé, vous vous présentez dans un centre de transfusion. Ce n'est pas directement à l'hôpital. Puisqu'on verra, l'hôpital ne peut pas traiter et rechercher certaines maladies. Donc, c'est le centre qui a cette prérogative.
Il s'agit notamment des cinq centres régionaux.
Voilà, les cinq centres régionaux.
Dont vous avez parlé.
Dont on a parlé. Et les cinq centres régionaux, ils ont sous leur coupe, en fait, en périphérie, ce qu'on appelle des postes de transfusion sanguine. Ces postes de transfusion sanguine sont habilités, on les autorise, donc sous la couverture du CRTS, à faire des prélèvements au niveau de... Normal, en principe, c'est les hôpitaux de district. Voilà. Eux, ils sont habilités vraiment sous certaines conditions à faire des prélèvements. Donc, vous êtes en bonne santé, vous êtes en bonne santé, vous arrivez dans un centre de transfusion, vous présentez, il y a un accueil, il y a un secrétariat qui vous donne, qui vous donne une fiche à remplir, ou qui vous aide à remplir cette fiche-là, si vous ne comprenez pas. Donc, c'est tout ce qui est les données administratives les contacts du donneur. Une fois que le donneur a été vu par le secrétariat, il y a des étapes suivantes qui consistent à aller vers la sélection médicale. Donc, un médecin est placé dans un bureau, c'est en confidentiel, personne ne rentre quand il y a le donneur qui est en train de faire son entretien avec le médecin. Donc, cette sélection médicale consiste à savoir de façon instantanée si le donneur n'a pas de comportement à risque, s'il n'est pas provisoirement ou momentanément malade. Donc, c'est des cas qu'il faut écarter. On va dire, revenez dans une semaine ou dans un mois. Donc, au niveau de la sélection, on prend la tension, on vérifie le poids. Je vous ai parlé tout à l'heure de 50 kilos. Une fois que cette étape est franchie, on vous donne un ticket. Un petit ticket où on va, et donc le sélectionneur va indiquer la quantité de sang à prélever. Et à partir de là, c'est l'anonymat. Il n'y a plus de... C'est monsieur X ou madame Y qui est venu donner. C'est des numéros qui vont suivre le patient jusqu'au niveau du prélèvement. Donc le prélèvement, en principe, dure 10 à 15 minutes. C'est anodin. C'est juste la piqûre que vous ressentez. Après, le sang coule de lui-même. Une fois fini cette étape, en principe, le donneur se repose un peu et il est dirigé vers un restaurant. On appelle ça la collation. Donc la collation consiste à lui donner systématiquement de la boisson, un peu de steak s'il y en a. On essaie de varier, du poulet également. Bon, bref, c'est pour qu'il reprenne un peu ses forces. Donc après, on le remercie et on essaie de lui notifier son prochain rendez-vous. Donc ça, c'est le circuit du donneur. Quel que soit le centre où vous trouvez, c'est la même chose. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, c'est la même chose. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le circuit de la poche de sang. Donc qui quitte le prélèvement, il est acheminé vers le laboratoire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, c'est au laboratoire qu'on va faire les tests pour rechercher au moins 4 maladies en ce qui concerne nos pays. Dans d'autres pays, c'est plus que ça. Mais ici, l'OMS demande au moins le VIH-SIDA, l'hépatite B, l'hépatite C, c'est des maladies transmises par le sang, et une autre maladie, la syphilis. Donc, on regarde et on fait le groupage également pour savoir de quel groupe et la personne, quel groupe la personne a. Donc ça, c'est au niveau du laboratoire. On appelle ça la qualification du sang. Donc quand tout est OK, c'est en ce moment qu'on autorise les structures sanitaires à venir faire leurs demandes. Donc il y a un service qu'on appelle la distribution. Donc c'est là-bas que le sang propre est stocké. Et maintenant, les services, les cliniques privées font leurs demandes. si la quantité, si les poissons sont là, on sert. Et je vous ai dit, malheureusement, on arrive à couvrir juste 50%.
En cas de manque
En cas de manque, on dit de, voilà, on dit de revenir demain. Voilà,
ou bien on part chercher un membre de la famille, comme il a eu à l'expliquer tout à l'heure.
Mais même ça, c'est avec les membres de la famille. Hein. C'est ça. Bon, ça nous arrive surtout les week-ends ou quand il y a, par exemple, le Ramadan. Hein, c'est des périodes vraiment difficiles pour nous. On n'arrive pas à mobiliser les donneurs. Donc, on demande aux malades de contacter au moins 4 membres de sa famille pour venir faire le don.
Monsieur Adam Moussa, vous êtes souvent sur le terrain par rapport justement à ce processus de don de sang.
C'est ça. Donc nous, au préalable, au niveau de l'association, nous partons par exemple au niveau des établissements scolaires, au groupement féminin, tout ça là. Nous procédons à la sensibilisation. Nous sensibilisons les gens sur l'avantage du don de sang. Et en précisant les différents critères que le directeur a énumérés. Ensuite, nous laissons une liste aux intéressés de s'inscrire. 2-3 heures après, nous retournons là-bas pour récupérer la liste, pour voir. Et d'un commun accord avec le CNTS, nous organisons le ramassage de ces volontaires-là. Et ils viennent, comme le DG l'a expliqué, suivre tous les circuits, tous les processus jusqu'à la fin.
Y a-t-il des contraintes socio-culturelles ou religieuses dans le cadre de la promotion du don de sang, vous pensez?
Bon, les contraintes peut-être un peu sociales, mais religieusement, nous avons l'habitude d'inviter des associations islamiques ou des groupements de musulmans pour venir donner du sang. Pour ça, il n'y a pas de problème. Peut-être social, il y a dans certaines localités, il y a des gens qui disent prélever son sang, donner à un autre, c'est prélever son pouvoir et donner à l'autre. Donc, vous voyez, ça, c'est des contraintes un peu sociales auxquelles on fait face. Mais avec la sensibilisation, nous arrivons à surmonter ces différentes contraintes.
Docteur Seydou Maïguizo, au niveau du CNTS, que faites-vous concrètement sur le terrain pour arriver à lever ces barrières?
Je veux y répondre. Avant de répondre, j'avais juste oublié de vous préciser, une fois que le don a été fait, le donneur, on lui demande de revenir une semaine pour chercher ses examens. Comme je l'ai dit, c'est un volontariat, on ne l'oblige pas, mais on l'encourage à venir donner. Pour la simple raison, si vous avez vos résultats, s'ils sont bons, c'est bon. S'ils ne sont pas bien, nous, dans tous les cas, on adresse le patient, s'il veut bien, à l'hôpital. Il y a un service qui est chargé de les prendre en charge. Quand le sang n'est pas bon, dans tous les cas, nous, on jette. Hein. Il faut rassurer les gens. Bon, maintenant, la question pour savoir qu'est-ce qu'on envisage.
C'est-à-dire que la précision que vous venez de faire, c'est que quand vous donnez du sang, on vous donne les résultats et c'est un avantage pour vous de connaître les résultats de l'analyse du sang que vous avez donné, c'est ça?
Oui, surtout pour le malade. C'est bon, on connaît les résultats. S'il est bon, c'est OK. S'il n'est pas bien, on détruit, on jette.
Mais même s'il est bon, il doit venir chercher les résultats.
On l'encourage.
C'est important.
Voilà.
Merci.
On l'encourage à venir chercher.
Merci pour cette précision.
Deuxième avantage, après le don, d'un deuxième don, on l'invite à venir prendre une carte.
C'est ça.
Il prend une carte pour la deuxième fois. Les avantages de cette carte, c'est quoi?
Les avantages? Vous savez, si vous avez cette carte-là, c'est comme une carte d'identité. Donc, elle doit être constamment sur vous. On ne sait jamais où un accident peut arriver.
On dit souvent que les gens qui ont cette carte sont prioritaires. Est-ce ça, justement?
Non, pour le don de sang, ils sont prioritaires quand ils viennent. On leur facilite, en tout cas, le processus. Si je prends le cas de Niamey, vous allez voir, il y a deux boxes, don de famille, don volontaire. Donc, les volontaires, on facilite, en tout cas, on leur facilite le processus pour aller rapidement.
C'est-à-dire, lorsqu'un donneur qui a sa carte manque de sang, est-ce à dire que le fait qu'il détienne une carte lui permet d'avoir facilement accès au sang dans la prise en charge de sa maladie en cas d'accident ou toute autre chose qui peut survenir? C'est ça la question en fait.
Cette question-là, elle est profonde. Je ne veux pas m'engager parce qu'on n'est pas à ce stade. Mais c'est vrai, dans nos réflexions, on dit pourquoi ne pas favoriser ces donneurs
ouais.
bénévoles qui viennent.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont compris ce que c'est la transfusion.
Mm-hmm.
Ils viennent aider. Donc, c'est une réflexion en cours. Comment faire, en tout cas, pour qu'ils aient certains avantages.
Dans tous les cas, c'est du bénévolat. Il s'agit de sauver des vies.
Voilà.
Ça n'a aucune importance.
Vous voyez, je prends les avantages au bon.
Mm-hmm.
Pour dire, depuis 4 ans, les donneurs bénévoles, le Saint-Esprit essaie d'envoyer un donneur volontaire au pèlerinage. Donc, ce n'est pas rien.
C'est déjà grande chose.
Voilà. Et on essaie de tourner, comme je vous ai dit, à 5 CRTS. Donc, on essaie de tourner. On a déjà envoyé un de Maradi.
Mmh.
On a envoyé un de Tawa. Cette année, c'est un de Zender, je crois, qu'on va envoyer.
Mmh.
Donc, on essaie de faire la rotation.
Tout à fait.
Pour que, en tout cas, le donneur, qu'on lui dise merci.
Docteur, que faites-vous? C'est la question qui vous a été posée concrètement sur le terrain pour lever ces barrières.
Bon, pour lever ces barrières, le secrétaire général l'a un peu évoqué, c'est la sensibilisation.
Mm-hmm.
Vous savez, la transfusion, c'est la communication, c'est la sensibilisation.
Oui.
Tant que les gens ne sont pas sensibilisés, n'ont pas compris l'importance du sang, on ne pourra pas avancer.
Mm-hmm.
Donc, c'est un volet important. Et au niveau de notre centre, on a une cellule qui fait de la communication, de la sensibilisation et de la promotion du sang. Comme il a dit, il travaille de concert avec les associations ou les ONG de donneurs de sang. Donc voilà un premier point pour essayer en tout cas d'enrayer ou de faire face au manque de sang. Deuxième possibilité qu'on a, grâce à un partenaire qui a accepté d'aider le pays en partenariat avec le pays, on va avoir deux véhicules de collecte. Donc, c'est acquis déjà. Un véhicule de collecte sera positionné à Niamey pour essayer de ratisser au niveau de la zone ouest et un qui sera positionné à Zender pour essayer de s'occuper, en tout cas, les régions de Zender et Maradi et Difa. Donc, c'est des véhicules de collecte vraiment spécifique à la transfusion sanguine. C'est des véhicules qui ont des sièges. Vous voyez les ambulances. Donc, au lieu d'avoir un brancard, c'est un siège qui est à l'intérieur du véhicule. Plus l'ensemble de l'équipement pour faire un prélèvement et pour stocker le sang.
Mm-hmm.
Une fois stocké, donc on revient pour essayer de traiter au niveau du centre.
Une autre question, docteur, c'est celle de savoir si le fait de donner son sang peut, oui ou non, avoir des impacts sur la santé du donneur. Tension artérielle ou risque d'anémie, par exemple.
Non, normalement, il n'y a aucun risque.
Mm-hmm.
Comme je l'ai dit tantôt, il y a un service de sélection.
Mm-hmm.
Donc déjà là-bas, on vous sélectionne. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes déjà écarté. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc, il n'y a aucun risque à donner son sang. Aucun.
Quelle est la quantité de sang qu'on prélève sur chaque donneur?
Bon, la quantité de sang prélevée sur chaque donneur est universelle.
Mm-hmm.
C'est 7 millilitres par kilo.
Elle est proportionnelle, donc?
Voilà. Ça veut dire, en exemple concret, un sujet qui a 70 kilos, on va lui prélever 450 cc. Une femme qui a 65, c'est 350. Dans tous les cas, on ne dépasse jamais les 450. Même si vous avez 100 kilos, c'est toujours 450 qu'on va prélever. C'est le maximum.
Faut-il être à jeun pour
ou
donner
son
sang?
Jamais.
On peut donner le sang à n'importe quel moment de la journée.
De préférence, c'est le matin. Vous savez, on est sous un climat tropical très chaud, on essaie d'éviter, enfin, en tout cas, les températures qui peuvent causer des problèmes. Parce que plus il fait chaud, plus vous allez avoir des vertiges, des petits malaises. Donc, de préférence, on fait ça le matin.
Quelles dispositions faut-il prendre de façon générale avant de donner son sang, docteur?
Disposition.
Faut-il manger? Faut-il faire du sport?
Oui, ce que j'ai dit, il ne faut pas être à jeun. Oui, c'est l'inverse d'un simple examen du laboratoire où on prend un petit tube. Là, vous voyez, on prend jusqu'à 450. Donc, on conseille aux gens de prendre, en tout cas, un repas léger.
Donc, le conseil petit. Même, c'est de manger avant de
venir. Voilà, de manger avant de venir.
Mm-hmm.
Et ça, très souvent, des donneurs viennent, ils font des malaises, ils disent, quand on les interroge en ce moment, qu'on apprend effectivement qu'ils n'ont pas pris leur petit déjeuner. Bon, parfois, sur place, on leur dit, bon, on va vous donner du coca pour essayer de remonter. Mmh. Mais il faut manger avant de venir.
Et quelles sont les recommandations médicales à suivre après un don du sang?
Une seule recommandation, c'est le repos.
Le repos.
Au moins pendant 48 heures, ne pas faire beaucoup d'activités physiques. Vous avez été prélevé, donc essayez de vous reposer.
DG du Centre national de transfusion sanguine, nous l'avons rappelé au début de ce forum, l'Organisation mondiale de la santé a institué depuis 2004 une journée en faveur du don du sang qui est célébrée le 14 juin de chaque année. Quelle est l'importance d'une telle journée?
Merci, c'est une question également importante. Vous l'avez dit, l'OMS a institué la journée mondiale du don de sang. Parfois, on dit la journée mondiale des donneurs de sang. C'est la même chose. Et c'est le 14 juin de chaque année. La date n'est pas fortuite. C'est un grand savant qui a fait beaucoup pour la transfusion sanguine. Notamment, c'est un Autrichien qui a développé dans les années 40 tous les tests de compatibilité. Bon, il a fait beaucoup pour la transfusion. Et le 14 juin, c'est sa date de naissance. Donc, l'OMS a jugé utile de le remercier pour tous ses bienfaits, cette avancée sur la transfusion sanguine. Et donc, c'est le 14 juin. La signification, il y a, je dirais, c'est une double signification. La première, cette journée est célébrée dans tous les pays du monde pour remercier les donneurs bénévoles. Parce que sans eux, il n'y a pas de transfusion sanguine, il faut le dire. Donc, c'est des volontaires qui viennent sauver d'autres personnes. Donc, c'est ça, remercier d'abord les volontaires, quel que soit le pays.
Ce qui est une très bonne chose, excusez-moi, vous dites des choses intéressantes, mais c'est que le temps ne nous permet pas
d'aller
en profondeur. C'est de nous parler, c'est de nous parler à présent.
Voilà, deuxième importance, c'est rappeler à la population, d'une façon générale, que le sang est irremplaçable. Donc, il faut que la population soit sensibilisée, qu'elle vienne donner le sang. Et troisième importance, c'est rappeler au pouvoir public, notamment aux différents ministères de la santé, de considérer la transfusion comme une priorité et non un parent pauvre de la santé.
Tout à fait.
Voilà en gros.
Et quelles sont les difficultés du centre pour collecter le sang et aussi pour le fournir aux demandeurs, docteur?
Les difficultés, bon, on l'a évoqué un peu, c'est les gens qui ne sont pas assez sensibilisés. Les difficultés aussi de nom de famille. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux périodes qui sont cruciales pour nous. C'est les vacances, parce que nos grands partenaires, comme il l'a dit, c'est les scolaires, c'est les étudiants, voilà. Donc, pendant les vacances, c'est un problème.
Quels sont les projets à court et moyen terme pour développer les capacités du CNTS et enrayer les difficultés?
Bon, les projets en cours, rapidement, comme on n'a pas le temps, déjà, j'ai dit, si on a les deux véhicules de collecte, c'est une bonne chose. Et deuxième point, c'est vraiment développer la communication. On a élaboré un plan de communication, on ne l'a pas encore validé. Donc, on est en train de voir quel partenaire peut nous prendre ça en charge. Donc, la communication et la sensibilisation de la population. Et ensuite, Autre volet, c'est, j'ai dit la communication. Oui, la communication.
Que nous allons revenir à vous, monsieur le directeur général, juste le temps
que... C'est créer des CRTS dans les autres régions pour que les gens puissent aller rapidement faire leur don.
Oui, rapidement un mot. Oui. Vous êtes plus actif au niveau de la sensibilisation.
C'est
un
ça.
Mot par rapport à cette journée et par rapport à ce thème qui a été retenu pour l'édition 2018, le don de sang en tant qu'acte de solidarité. Oui. Un mot de façon succincte.
Bon, c'est pour compatir. Donc, les gens sont là, ils ont besoin du sang, donc il faut compatir à leur douleur.
Et c'est un geste noble.
En donnant son sang. Comme vous l'avez dit, c'est un geste aussi noble pour sauver des vies humaines.
Votre vœu, donc, c'est que ça soit compris comme tel par les auditeurs.
Par les auditeurs. Et inviter aussi les gens à venir massivement donner leur sang dans tous les centres.
Une autre question que nous vous adressons rapidement, c'est l'importance de connaître son groupe sanguin, monsieur le directeur général du CNTS.
Bon, tout à l'heure, j'avais pas fini la
votre
réponse.
Votre intervention.
Voilà. En ce moment, on est en train de...
On avait une course contre la montre.
Voilà.
Parce qu'on va finir rapidement.
Voilà. On va utiliser les
nous
médias.
Nous sommes déjà...
On a un site web. On va utiliser également les réseaux sociaux puisque c'est à la vente. Donc tout ça, c'est pour amener les gens, en tout cas, à venir donner, à les sensibiliser aussi.
Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours. L'importance...
Et à long terme, on prévoit une table ronde sur la transfusion sanguine où les différents bailleurs vont venir et une table ronde de bailleurs. Donc chaque bailleur va se déterminer par rapport aux différents volets qu'on va leur présenter.
Général, nous avons le principe de compatibilité que les médecins utilisent souvent en ce qui concerne les transfusions sanguines. Pouvez-vous nous expliquer cela et l'importance pour chaque être humain de connaître son groupe sanguin?
Oui, c'est important de connaître son groupe sanguin parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez la carte, vous connaissez votre groupe.
Il y en a combien, les groupes?
Bon, il y a 8 si on veut. Il y a 4 qui sont positifs et 4 négatifs. Donc, les groupes, c'est le groupe O. Donc, vous avez O moins,
O plus.
O plus. Vous avez le A.
A plus, A moins.
Voilà. Vous avez le B. B plus, B moins. Et vous avez le AB. Lui aussi, il peut être plus, il peut être moins. Donc, en résumé, il y a 8.
Le principe de compatibilité.
Voilà.
On dit qu'il y a des donneurs universels, des receveurs universels. Ça se fait comment?
Bon, le donneur universel dont on parle, ça veut dire qu'il est capable de donner à tout le monde. Et il n'y a que le au moins.
Il n'y a que le au moins.
Voilà, le au moins, il donne à tout le monde, y compris à lui-même, bien sûr. Malheureusement, quand il tombe malade, il n'a que le au moins pour lui donner. Voilà la contrainte. Vous avez maintenant le au plus. Lui, il va donner à tout ce qui est plus. Il peut recevoir au moins. Mais il ne peut pas donner au moins. C'est ça. Donc, lui aussi. Mais le vrai groupe universel, c'est le O négatif.
Parce que lui, il donne,
tout le monde.
Et le AB, on dit qu'il reçoit.
Lui, c'est le receveur universel.
C'est-à-dire, si quelqu'un.
Voilà,
a
tout le monde
AB,
lui donne.
Tout le monde lui donne.
A lui donne, O lui donne, B lui donne, AB. Voilà.
Si j'ai AB, tout le monde peut me donner du sang.
Voilà.
Et si j'ai O, au moins, je peux donner à tout le monde.
Voilà.
Merci docteur. Un mot pour terminer votre appel. Votre appel, puisque nous sommes presque à la fin de l'émission. Juste un mot pour terminer.
Je voudrais revenir par rapport juste à la nécessité de reconnaître
son groupe sanguin.
Son groupe.
Oui, allez-y.
À un certain moment, au niveau de l'association, nous avons fait même des propositions pour que ça soit noté dans la carte d'identité.
Il y a des porteurs qui le font, notamment
les FDS
et la police.
Tous les FDS connaissent leur groupe.
C'est important. Un autre appel pour terminer, nous sommes à la fin.
L'appel, c'est pour, j'invite les uns et les autres venus à venir donner leur sang.
Que ce soit à Niamey ou à l'intérieur.
C'est le même appel en direction de la population. Comme j'ai l'habitude de le dire, la transfusion, ce n'est pas que l'affaire du Centre national de transfusion sanguine. C'est l'affaire de tout le monde.
C'est l'affaire de tout le monde, puisque tout le monde peut être dans le besoin.
Exactement.
Un jour. C'est donc la fin de ce forum du studio Kalangou. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu comme thème pour cette émission l'importance du don de sang qui a été débattue. Nous retenons que le sang est jusque-là irremplaçable dans le fonctionnement du corps humain. Pour donner son sang, il faut être en bonne santé. Vous devez avoir 18 ans au moins. Vous pouvez aller jusqu'à 60 ans. Ou plus, c'est-à-dire vous pouvez aller à 65 ans si vous avez l'habitude de donner du sang. Il faut avoir 50 kg, c'est ça? Voilà, donc beaucoup de gens peuvent donner du sang. Nous étions avec le médecin général, Dr Seydou Maïkizo, directeur général du Centre national de transfusion sanguine CNTS, et Adamou Moussa de l'Association des donneurs bénévoles du sang du Niger. Je les remercie tous pour leur participation à ce forum du studio Kalangou. Merci à vous également, chers auditeurs, de nous avoir suivis à la réalisation. C'était Diallo Boubouka au micro, Michel Deji. Passez une excellente soirée et au revoir.